Les femmes, c'est justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs, les travailleuses. Parce que chez Lip, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on se plaît à le nommer, effectivement, qui est un homme. Mais les femmes participent dans toutes les commissions. Les femmes font un très gros travail. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes, je sais pas, il y a des lettres, des tracts à taper, c'est souvent les femmes, donc elles participent. Et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire. C'est essentiel.
Les femmes disent qu'elles ont peur de s'exprimer. Et le comité d'action les a aidées quand même en ce sens à s'affirmer. Elles vous disaient carrément, et les jeunes travailleurs également, il y a une structure dans le syndicat, il y a une certaine hiérarchie, ça nous fait peur. Et le comité d'action n'a pas de structure, il y a une certaine liberté, on ose s'exprimer, on n'est pas jugé, on peut dire une bêtise, en fait c'est repris par quelqu'un d'autre, reformulé. Enfin, vous voyez, je crois que ça aide les gens à se désaliéner et à se reconnaître, à être reconnus. Et je crois quand même que, oui, c'est vrai que les syndicats ont du mal de piger.
Je vais te raconter un petit peu ce qui se passe chez Lip à propos des femmes. Hein. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirai des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez Lip, il y a la moitié de blanc, la moitié d'arabe. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grand chef arabe. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les Arabes, ben on pense. Moi, je sais, puisque je suis un Arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors, seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi... À part les Arabes, il y a des Blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits Blancs. Ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un Arabe. Et ces petits Blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs Blancs. Par exemple, tiens, en ce qui concerne les problèmes d'Arabes. C'est vrai, les Arabes, on a des problèmes d'Arabes. Puis les Blancs, ils ne peuvent pas comprendre. Tu vois, ça les dérange. Par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux. Ces Arabes, ça a un ventre compliqué. Les grands chefs blancs, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des choses vraies, des problèmes sérieux. C'est pas comme ces Arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors, évidemment, en ce qui concerne par exemple la lutte, on peut dire que tout le monde sera défendu, même les Arabes. Il y a une bonne raison pour ça, je vais te dire pourquoi, c'est que cette usine ne peut pas tourner sans les Arabes. Alors, pour l'emploi, on sera tous défendus avec impartialité. Évidemment, les Blancs, leur rêve serait d'être une usine de Blancs. Tout serait tellement simplifié, c'est fou. Puis il y a quelque temps, les Arabes, on était un peu récalcitrants pour les tâches. Alors, pour tous les petits travaux, tu vois. Et les grands chefs blancs ont dit, ben, on va se mettre nous aussi à faire ces tâches humbles, tout ça, on va montrer l'exemple. Évidemment, c'est dommage de gâcher le temps de ces grands penseurs à faire des travaux aussi simples, aussi discrets. Enfin, j'aurais pas dû dire aussi discrets, parce qu'ils sont pas tellement discrets quand ils font ça. Enfin, certains. Par exemple, quand il y a un grand chef blanc à la cuisine, bah on sait, hein, on l'entend, il remue, il récrit tout le monde, il faut que tout le monde soit autour de lui, enfin tout un tas d'arabes, il y a une dizaine d'arabes autour de lui pour éplucher les oignons ou passer les plats. Et les arabes qui sont là, on n'en fait pas de cas, on ne sait pas leur nom, c'est des arabes, c'est normal, ils sont 10, ils sont 20, on les compte plus, ils n'ont pas de nom. On les remarque pas comme un grand chef blanc qui a daigné venir à la cuisine. De toute façon, dans la lutte, les Arabes qui n'ont pas la parole, on leur recommande quand même de se rendre utiles. Ils doivent même se rendre utiles. Comme je le dis, passer les plats, faire les nettoyages, monter la garde, taper à la machine ce que les grands chefs blancs ont pensé et élaboré. Mais pour la stratégie, on ne leur demande jamais leur avis. De toute façon, un Arabe, ça doit rester discret. Que ce soit dans son travail ou pour le tout, un Arabe qui va changer le papier des chiottes ou tout ça, ça fait pas de bruit. On trouve ça normal, c'est un boulot d'Arabe. On va quand même pas s'épater parce qu'un Arabe a fait du nettoyage. C'est fait pour ça, un Arabe. Et puis, il y a aussi des Arabes qui ont en quelque sorte renié leurs frères de race, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas tellement qu'il y a des problèmes d'Arabes. Ils n'aiment pas entendre parler de ça parce qu'ils savent que ça dérange les Blancs, alors pour pouvoir être bien avec les Blancs, ils ne parlent pas de ça. Et ils vivent dans l'ombre des Blancs. Et ils se croient un peu blanchis à cause de ça, tu vois. Mais ils se trompent parce que quand il y a des grandes décisions à prendre ou des actions secrètes, eh bien les Blancs ne mettent pas les Arabes dans le coup, ne les mettent pas dans la confidence, même s'ils sont toujours avec eux. Évidemment, on ne peut pas faire confiance à un Arabe. Et puis, il y a quelque temps, par exemple, je vais te dire encore un autre exemple. Un jour, au collectif, Christiane et moi, on a un peu oublié qu'on était Arabes. On nous l'a très vite rappelé. Voilà, il y avait un grand permanent syndical qui vient et qui arrive, qui dit « Je voudrais quelques lips pour m'accompagner à la police, ça m'embête d'aller tout seul. » On était déjà très contentes parce qu'il n'avait pas dit « quelques gars », comme il dit d'habitude. Alors, quelques lips, Christiane et moi, on a levé le doigt. On a dit « on veut bien aller ». Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là? Comment veux-tu qu'un grand chef blanc accepte d'être soutenu à la police par des Arabes? C'est invraisemblable, impensable. Les Arabes, c'est de la merde. Alors, évidemment, il nous a même pas regardé. Il n'y a aucun autre grand chef blanc là qui a eu un regard pour nous. Et ils se sont débrouillés entre eux pour trouver assez de monde pour aller à la police. Puis Christiane et moi, ben, on s'est écrasés. On aurait dû se rappeler qu'on est arabe, qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien. Les grands chefs blancs nous le rappellent assez souvent. Ça doit être vrai, puisque c'est eux qui le disent. Voilà la situation.
De la CFDT qui a donc fait le déplacement. Et déjà, la CGT a annoncé tout de suite le lendemain matin qu'elle soutenait. De même, du côté de la CGC, ils ont rappelé les responsabilités du pouvoir dans ce domaine. S'il y a bloc par rapport à ce problème-là, le préfet hésitera parce qu'ils savent très bien que leurs monstres ne sont pas volés, mais que jamais les travailleurs ne gardent pour eux des objets de ce type, ils savent très bien qu'ils peuvent les avoir un jour, et le jour où il y aura une solution, le jour où il y aura quand même... On rappelle par exemple qu'il y a...
Puis quand c'était le moment de faire le compte-rendu, Fatima a dit, bon, c'est Christiane qui commence d'abord. Alors moi, j'ai fait le compte-rendu de la lutte des femmes, de la fête des femmes où je m'étais rendue à Bordeaux. Puis quand les étalages, j'ai... Je m'amène au micro, alors tout de suite, il ne faut pas toucher le micro, ça fait du bruit. Mais c'était bien un petit peu pour me paniquer d'abord, parce que je n'avais pas l'habitude du micro. D'ailleurs, c'était la première fois que je prenais la parole en Assemblée Générale. Alors je dis bon, ben voilà, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai rien préparé sur papier, parce que je trouve que c'est un kikinant d'écrire et tout ça. Alors là, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors, je commence à raconter par qui on avait été invité, puis qu'il y avait des groupes de femmes de Bayonne, de Dax, de Bordeaux, le mal qu'elles avaient eu pour faire leur campagne d'affiches d'abord, parce que c'est entre deux faits, deux partis politiques importants, entre le PC et entre le PS. Alors c'était tout de suite recouvert, leurs affiches, par les affiches des grands partis, quoi. Alors, dans l'entre fait, il y a Fatima qui me prend tout de suite le micro comme ça, puis qui fait « Oh mais on voudrait bien, en fait, on voudrait bien qu'on écoute un peu, surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude de parler, on voudrait bien qu'on écoute un peu. »
Énormément de monde, oui.
Alors elle aurait voulu qu'on m'écoute, parce que, pour que déjà que ça m'encourage plus à parler, tu vois. Que je me dise pas, bah, personne ne m'écoute, il voudrait mieux que je fasse pas mon compte rendu. La prochaine fois, j'ouvrirai plus jamais ma... je parlerai plus jamais au micro, parce que... Ben, tu vois, ça m'a réveillé, ça a fait tic dans ma tête, parce que je me suis dit, merde. Alors je reprends le micro vite après, puis je fais... Oh, ben, de toute façon, si ça intéresse pas ce que je dis, si ça intéresse pas les gens ce que je dis, ça m'est complètement égal, alors vraiment, j'en ai vraiment rien à faire, je fais.
Elle dit, je continue pour ceux que ça intéresse, qu'elle a dit.
Ah non, j'ai pas dit, je continue. Non, j'ai dit, j'en ai vraiment rien à faire, je fais. J'ai entendu des applaudissements de tous les côtés, tu sais, ça m'a fait rigoler en moi-même. Je me suis dit, je vais vite reprendre le micro pour pas perdre le fil de ce que je voulais dire, quoi. Mais il paraît que, enfin, il y en a, après l'Assemblée Générale, il y en a qui m'ont dit, mais t'as vachement bien fait de dire ça parce que ça t'a déclenché des sympathies. Alors bon, après j'ai continué de raconter comment ça s'était déroulé, tu vois, dans la journée, à partir du matin, comment j'avais fait connaissance déjà avec les groupes carrés au fur et à mesure, qu'on avait rédigé les panneaux, quoi. Et puis, l'après-midi, ce qui s'était passé, comment les films qu'il y avait eu, des films, il y avait eu une grande pièce de théâtre, il y avait eu autour des panneaux des discussions très intéressantes, les panneaux parlaient du viol, la contraception. Il y avait eu le film des filles de Cerisay avec un débat sur le chômage, le problème de l'emploi, puis il y avait eu ce film, donc je te parlais tout à l'heure, Mise au Mazo. J'ai raconté, j'ai expliqué ce que c'était tiré d'après une émission avec Bernard Pivot. Hein, j'ai expliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas, qui savent pas du tout ce que c'est que Mise au Mazo. Je suis sûre que 99%, même plus de chez lui, ne savent absolument pas ce que c'est, puis ni même pas ce que c'est que l'émission de Bernard Pivot.
Oh si, ça y est.
Un petit peu quand même.
Oui.
Mais il fallait que je situe quand même, quoi, tu vois.
Oui.
Et puis... Au fur et à mesure que je parlais, je sentais bien que les délégués qui étaient autour de moi, là, sur la droite, ils commençaient de s'énerver, de s'impatienter parce que ça commençait à devenir long. Puis moi, je me rendais compte que ça, au fur et à mesure, malgré tout, je me rendais compte que ça les agaçait. Puis je me disais à moi-même, mais tu vois, en 73, j'aurais pas pu réfléchir à ça, j'aurais pas pu dominer tout ça parce que j'avais pas du tout l'habitude. Alors, je me disais à moi-même, merde après tout, mais... Pourquoi que j'aurais pas le droit de parler, mais eux, ils parlent bien pendant des heures au micro que ça fasse lécher les gens. Mais il y en a un petit qui dorment quand ils parlent, et bien on les écoute bien, on leur dit pas de fermer leur boîte. Alors, je continuerai d'expliquer, même si je voyais Jacqueline devant moi qui faisait... C'est long. Parce que Charles qui faisait comme ça. Alors le Charles, systématiquement, ça faisait...
Oui, il faisait...
Oh, mais je... Je me disais, mais bon, c'est, je raconterai jusqu'au bout tout ce que j'ai vu, il n'y a pas de censure, c'est tout. Alors après, je fais, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi un panneau, avec un panneau qui expliquait la lutte des homosexuels. Puis j'entends des ricanements, ben je dis, ben oui, quoi, mais pourquoi? Mais après tout, c'est des gens qui veulent être reconnus comme des individus à part entière. En plus, c'était une fête de femmes. Alors j'estime que, je ne sais pas, moi-même, je me suis pensé, ben, c'est drôlement bien, parce qu'au moins, elles ne sont pas sectaires. Puis en même temps, je voulais leur rappeler dans leur tête le week-end des portes ouvertes. Ils avaient été sectaires sur certains trucs, tu vois, fermés, quoi.
Le week-end du 11 juin, 15 000 personnes venues de toute la France assistent aux journées portes ouvertes de l'IP à Palante. Motif de ces journées, la nécessité pour les LIP de s'unir à la population régionale et le besoin d'abord d'être compris sur place. à la suite des discussions qui ont eu lieu, a pris l'interdiction pour les femmes de diffuser l'hypoféminin et c'est possible de Monique Piton, à la suite de l'impossibilité pour les femmes d'avoir dans l'usine leur propre stand d'expression, une centaine de femmes se sont réunies. Elles ont rédigé une lettre que Fatima de Lip lira en Assemblée Générale. Ces journées nous ont paru très positives. Cependant, plusieurs faits ont attiré notre attention ou nous ont gênés. Nos groupes ont demandé à participer par des stands au débat général sur tout ce qui touche à votre vie et à la nôtre. Stand lutte de femmes, stand MLAC, stand viol. Ces stands ont été refusés, alors que d'autres qui n'étaient pas des entreprises en lutte ont été acceptés. Stand agré, stand lutte occitane, stand étudiant. Pourtant, tout ceci, les conditions de vie et de travail des femmes, nous concernent toutes et tous. Car il n'est pas vrai qu'un homme vive bien quand sa femme ou sa compagne connaît ses difficultés supplémentaires. Nous avons d'autre part constaté que la majorité des ouvriers à Delip n'étaient pas assez disponibles aux visiteurs et aux visiteuses. Soit elles étaient pratiquement les seules à s'occuper des tâches traditionnelles réservées aux femmes, crèches, buvettes, soit leur expérience d'ouvrière était oubliée, alors qu'elles représentent 54% du personnel et 82% des OS. Par exemple, les visites étaient faites uniquement par des cadres et des techniciens et dans le seul but de montrer que l'outil LIP pouvait bien marcher, avec des explications techniques sur le quartz et le binoculaire. Mais jamais, aucune OS n'a pu expliquer à quel point ce binoculaire fatiguait les yeux, surtout lorsqu'on doit s'en servir pendant des heures et des années. Nous voudrions aussi vous interroger. Pour que l'ouverture de LIP sur l'extérieur porte ses fruits, ne faudrait-il pas que la manière dont les visiteurs et les visiteuses sont reçus permette le dialogue, de manière à associer le maximum de gens? Et est-ce à l'intersyndicale d'imposer la forme de ce soutien extérieur? D'autre part, n'y a-t-il pas un danger énorme à spécialiser des LIP dans l'accueil, alors que vous avez, toutes et tous, votre expérience à faire connaître? C'est notre affaire à toutes et à tous que la démocratie fonctionne.
Évidemment, quand je raconte tout ça, les minutes elles passaient, tu sais, puis après,
c'est pas trop long du tout. Moi,
D'ailleurs, je vous ai ramené des affiches, je leur ai montré les affiches qu'il y avait.
Ah oui.
J'aurais dit, ah oui, au fait, elles avaient fait aussi, il y avait aussi un stand, elles avaient fait comme nous des t-shirts avec l'emblème de la femme. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai acheté un, par solidarité, c'est normal que j'ai fait. Mmh. Alors voilà, sur moi ça représente la terre avec une main de femme.
On a été très nombreux, on s'est retrouvés autour d'elle pour lui dire qu'elle s'était bien expliquée, qu'elle avait même dit des choses qui n'avaient jamais été dites chez lui. Comme par exemple, le mot homosexuel, ça n'avait même jamais été prononcé.
Il y a une femme du groupe femme, là, de la commission femme, qui est venue vers moi et qui me fait « Oh là là, bon, moi c'est bien parce que t'as dit des choses qui n'ont jamais été prononcées chez lui.
Voilà.
Enfin, au moins t'as enfoncé le clou qu'elle m'a dit. »
Et dès que c'est quelqu'un de nous, quoi, la plus forte raison une femme, qui propose une idée, au premier mot, on nous fait taire ou il y a des réactions, et on ne peut pas aller jusqu'au bout de notre pensée. Si bien que ce qu'on voulait dire est toujours tellement mal exprimé que c'est vrai que ça ne ressemble pas à grand-chose.
Oui, parce qu'en plus, je te dis, il nous a timide, quoi, du fait qu'on a... Moi, surtout, j'ai pas du tout l'habitude de parler, parce que je voudrais pas en plus parler pour dire des conneries, tu vois. Alors, en plus de ça, tout de suite, ça...
C'est plus parler, c'est se battre. C'est se battre contre...
On se bat, on a l'impression qu'on ressort que notre agressivité. Ça a beaucoup moins de...
On a beaucoup de mal à
citer, quoi, ce que tu dis, oui. C'est...
Puis alors, après...
C'est perçu par le reste du collectif comme une agression contre les délégués, au lieu que ce soit quelque chose que... une richesse que t'apportes au collectif. C'est comme ça que je le ressens.
C'est lui que ça a choqué. C'est lui que ça a choqué, Charles.
Il me dit, mais tu te rends pas compte? Il y a je ne sais combien de gens qui sont venus me trouver en me disant, vous savez, c'est fini. Ici, on ne veut plus entendre parler ni de la contraception, ni du viol, ni de l'homosexualité. Je dis quoi? Mais pourquoi ces gens-là, vous ne les avez pas envoyés à moi? Parce que je regrette, j'ai eu aucune réflexion. Personne n'est venu me faire une réflexion de ce genre-là. Au contraire, puis je me fâchais même parce que ça m'est hors de moi des trucs pareils. Au contraire, il y en a plusieurs à qui je ne cause pas tellement d'habitude qui sont venus et qui m'ont dit, en tout cas, vous avez drôlement bien fait de dire que ceux que ça n'intéressait pas, vous en foutiez pas mal si vous n'écoutez pas. J'ai fait alors, ça m'étonnerait. Il me dit, ah ben on te prévient, en tout cas c'est comme ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi aussi vous ne leur avez pas dit que je n'étais pas cautionnée par vous pour parler? Il n'y avait pas à aller s'adresser à vous. Ou alors s'ils allaient vers vous croyant que c'était un compte rendu habituel comme ils sont faits normalement, ben vous aviez qu'à leur dire carrément, ben allez la trouver, puis faites plus cette réflexion à elle, puisque je fais partie des gens qui sont dans la lutte.
Puisque le poteau était découvert, Cunin et Gartin ne pouvaient pas, ils nous l'ont dit, ne pouvaient pas ne pas en parler. Donc nous, il a fallu qu'on profite, faire appeler, on a convoqué la presse pour 10h le matin, et on a annoncé la nouvelle. Et bien sûr, beaucoup de livres ont été, l'ont appris par la radio, mais ça, on ne pouvait pas les prévenir avant. Et il est certain que c'est au nom des livres que la CFDT a enlevé le monde. Elle les a déplacés. Ce n'est pas une escroquerie, ce n'est pas un vol, c'est un...
C'est un recul énorme.
Bien.
D'ailleurs, l'autre jour, mais je ne sais pas si c'est de cette façon-là qu'il voulait le... Par exemple, un séjour pour la prise du stock de montres. Les premiers jours, après la prise du stock, les gens qui étaient là, donc qui n'étaient pas en vacances et qui venaient à l'Assemblée Générale, étaient vraiment partie prenante de cette action. Bon. Même si elle n'est pas nouvelle, elle nous donne peut-être une certaine force quand même. Bon. Et ça avait été dit que c'était les 800 litres qui étaient partie prenante du stock. Ils restaient à les consulter et tous, puisqu'ils n'étaient pas tous rentrés de vacances. Bon. Enfin, on pensait qu'il n'y aurait pas de problème. D'ailleurs, moi, je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème, mais l'autre jour, en faisant un compte-rendu, le jour où tout le monde est rentré de vacances, c'est Vito, quoi, qui a fait le compte-rendu, et qui dit, la CFDT a mis les stocks à l'abri, etc. Et s'il y a des condamnations, enfin des interrogatoires, tout ça, la CFDT prendra ses responsabilités. Bon, alors, on se sent complètement dépossédé de cette lutte, en quelque sorte. On n'a pas à la ratifier, on n'a pas à applaudir ou à dire oui, on est d'accord. C'est la CFDT qui a fait son boulot, qui en prend la responsabilité. Alors finalement, je veux dire, les gens, ça ne les mobilise pas du tout. Après, ils sont étonnés que les gens n'ont pas envie de venir balayer, faire la vaisselle, monter la garde ou même discuter. On a l'impression que c'est la CFDT qui mène une lutte. Mais enfin, que la CFDT se débrouille puis se trouve des troupes. Parce que quand j'ai abordé ça au collectif dans l'après-midi, je lui ai dit, mais ce matin, t'as mal présenté les choses, tu ne motives pas les gens en disant comme ça, il faudrait le redire en disant, c'est tous les LIP. Bon. Il dit, oh, mais quand on dit la CFDT, de toute façon, ici,
il se retourne de tous les côtés,
on est tous la CFDT.
Il se retourne comme ça,
oui.
Et il fait, son arbre, c'est toute la CFDT. Je me lève, je fais, comment? Ah, pardon? Ici, c'est pas toute la CFDT, je regrette, moi, je ne suis pas syndiquée. Puis je l'ai crié très fort pour que tout le monde du collectif l'entende.
Oui, oui. Tout le monde n'y est pas.
On n'est pas forcément tous syndiqués CFDT.
Ça veut déjà dire qu'ils éliminent d'office la CGT. Puisque soi-disant, ils veulent la mettre en coup et la CGT était quand même.
Et en plus, oui.
Alors, ils l'éliminent. Ils éliminent les cadres qui éventuellement, enfin, ils sont un peu mitigés, mais ils les éliminent d'office. Et puis en plus, tous ceux qui ne sont pas syndiqués sont éliminés. Puis ceux qui sont syndiqués, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de se battre pour la gloire de la CFDT. Ils veulent peut-être se battre pour la lutte de l'IP, puis pas pour la CFDT. Pas pareil, hein. Non, ils ont... Il y a des fois, ils pensent que les mots, ça compte pas. Mais moi, je regrette. Des gens politisés comme ça, et qui ont l'habitude de discuter comme eux, et qui sont... Enfin, qui voyagent en plus, et qui... Enfin, qui parlent à longueur de journée, qui se réunissent tous les jours.
Mais une pratique, quand même.
Moi, je pense que les mots, ça
font... Expérience, hein.
Oui. Dans tous leurs mots, d'ailleurs. Comme toujours, quand ils sont toujours... On leur a déjà dit, par exemple, puisqu'il y a la moitié de femmes chez Edith, de choisir leurs mots pour que les femmes se sentent associées. Maintenant, ils continuent, depuis des années, à toujours dire les gars, allez les gars, venez, il faut 4 gars là-bas. Bon, puisqu'il leur faut 4 gars ou 10 gars, moi, je vois pourquoi j'ai rien à écrire, hein. C'est un nouvel an, je ne suis pas un gars.
Je ne ferai aucune tâche matérielle tant qu'on ne laissera pas le droit de m'exprimer aussi.
Oui.
Et ouais.
Voilà, alors ils sont.
C'est pas par fainéantisme, c'est pas parce que je ne veux rien faire dans la lutte, c'est parce que j'ai compris que je ne veux plus me passer pour un boy uniquement. Comme en 73 au début, ben, moi, je faisais beaucoup de tâches matérielles, mais jamais j'aurais
osé, puis jamais j'aurais peut-être pas été capable d'amener une réflexion, moi, dans un collectif ou un truc comme ça.
On était tous capables, mais on ne laisse pas le temps.
Vers la fin, c'est pas pareil. Mais
maintenant, il y a énormément de gens qui sont parfaitement capables. D'ailleurs, tous ces gens qui ne... même ceux qui viennent pas, c'est justement parce qu'ils font l'analyse politique, en quelque sorte. Ils se rendent compte qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Ils se rendent compte que la lutte, elle est menée par un petit noyau, une petite bande de copains, là, qui dirigent la lutte, mais qui dirigent comme des patrons. On serait fait houspiller par un patron. Comment on s'est fait houspiller l'autre jour, Christiane, à propos de son compte-rendu de Bordeaux, ben on serait allé pleurer vers les délégués. Alors là, on va aller pleurer vers qui? C'est les délégués qui nous traitent mal comme tout. Et puis, oui, ce que je voulais dire, c'est que l'autre jour, hier, ils ont à peu près mis sur pied le projet d'organiser un planning pour l'organisation du travail, pour les tâches matérielles. Alors, où il y aura des tours de rôle, etc., pour faire la cuisine, la vaisselle, balayer, enfin, toutes ces tâches-là, parce que les gens ne sautent pas dessus, hein. Alors, ils organisent un planning pour les tâches matérielles. Alors, je leur ai demandé, est-ce que vous organisez un planning pour accorder un temps de parole aux gens? Est-ce qu'il y aura un temps de travail matériel? Et le temps de parole, quand c'est qu'on l'a? Alors, donc, si on n'a pas de temps de parole, je ne vois pas pourquoi on aurait le temps de balayage. Et puis, les délégués se sont rendus compte, déjà il y a quelques temps, que les gens ne voulaient plus faire les tâches matérielles. Mais comme dit Christiane, c'est pas par paresse, c'est par manque de motivation, parce qu'on ne veut pas être pris pour des imbéciles. Et les délégués, donc, se rendant compte que les gens ne faisaient pas assez le balayage, se sont mis un petit peu aux tâches matérielles. Alors, il y en a qui sont mis un peu à la vaisselle, à la cuisine, enfin, quelques petites choses. Bon, c'est bien, disons, c'est un effort. Mais ils n'ont pas fait l'effort d'aider les autres à parler. Il n'y a même pas besoin de les aider à parler, il y a besoin simplement de leur laisser le temps de parler, leur laisser le droit de parler, le droit d'avoir d'autres idées que leurs idées à eux. Bon, on se trouve au chômage, mais je dois dire qu'on est très nombreux à... on n'est pas malheureux d'être chômage. Enfin, tant qu'on est payé, je suis bien d'accord. C'est d'argent qu'on a besoin, c'est pas de travail. De travailler imposé dans une usine, moi bon, je suis pas pressé que ça rentre, hein, pour ça. Bon, je voudrais que ça ouvre à la dernière minute, à la fin du chômage payé. Alors justement, on dirait que, pas toujours pareil, les syndicats, quoi, ils veulent tellement arriver à prouver partout qu'on est très malheureux d'être sans travail, qu'ils veulent nous faire travailler pour pouvoir dire, vous voyez, les élites s'ennuient tellement du travail qu'ils travaillent quand même. Ils pourraient vivre sans travailler, aller à la plage, mais non, ils vont travailler. Moi, je dis que c'est pas vrai, d'ailleurs, ça ne veut pas marcher. Ça ne veut pas marcher, parce qu'on n'aime pas le boulot à ce point-là, quoi. Hein? C'est d'emploi qu'on a besoin, c'est d'un emploi pour vivre, parce qu'on n'a pas des revenus ou autres. Mais c'est pas du travail. Hein. Moi, je m'ennuie pas d'être au boulot, tu parles. Puis il y en a qui ont des boulots encore plus durs que moi. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui est sur une presse dans l'huile avec un bruit comme ça s'ennuie de son travail.
On n'a quand même pas besoin de 8 heures de travail par jour pour ne pas s'ennuyer.
Non.
C'est ce que j'ai apprécié. Quand j'ai travaillé à mi-temps, 2 mois et demi, à cause de ma santé, je travaillais à mi-temps. Et bien là, j'ai jamais tant apprécié... la vie, parce que je travaillais.
Oui, on allait travailler avec les copains quand même.
En même temps, j'avais l'honneur de travailler. J'avais les contacts avec les copains de l'IC. Puis en même temps, j'avais le temps de vivre chez moi, autrement, une autre vie. Vivre ou chez moi, faire ce que j'ai envie de faire, ou d'aller en ville, ou de lire, ou de dormir. J'avais l'impression d'exister au moins, tu vois, d'être libre, et puis au moins d'exister pour quelque chose. Pas d'être un robot qui va le matin au boulot puis qui rentre le soir, complètement vidé, comme je le racontais à la journée de la magistrature.
Et puis,
à Bordeaux. J'ai l'impression, moi, de ne plus être un robot, tu vois. D'être un petit peu, de contrôler un peu moi-même.
Souvent, on n'aime pas le travail qu'on fait. C'est fréquent, on me donne une lettre à faire, le directeur me donne une lettre à faire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Il faut que je la tape. Ça me fait peut-être autant souffrir que si j'étais sur une machine avec du bruit. Ça m'énerve. Un tas de choses. Il y a des choses où on voit qu'ils sont en train d'entreprendre quelque chose qui est complètement ridicule, ou des choses qui sont soit contre les ouvriers ou même contre la vie en général. Des choses, je ne sais pas, contre l'écologie ou ça dépend le poste qu'on a. Eh bien, On n'est pas d'accord, on n'a pas le droit de le dire. À moi, quand je disais ça à mon directeur, il me disait, Monique, quand vous serez mon directeur, je vous obéirai et vous commanderai. Voilà, tout ce qu'il trouve à répondre. Ah bon, il fallait que je continue à obéir. Alors, moi, le boulot, je l'aime pas. J'aime pas travailler. J'aime travailler des trucs qui me plaisent chez moi ou avec des amis dans un but.